Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. L'interview du jour en compagnie de Isabelle Catois. Bonjour.
Bonjour.
Tu es la chargée de l'action du et Festival Est-Ouest. J'aime bien en fait. De l'action culturelle, de la programmation jeune public, de la coordination. Et en tant que chargée de cette action culturelle pour le Festival Est-Ouest et le Théâtre de Die, nous allons évoquer une série d'actions autour d'une résidence
autour d'un spectacle, qu'on accueille là le 23 janvier. Il y a une période de résidence donc à l'automne, donc avec la compagnie Premier Acte. Le metteur en scène, c'est Sarkis Tchamlegjan, ils sont de Villeurbanne.
Voilà, une interview qu'avait réalisée Louis et qui passera tout de suite après.
Exactement.
Pour se remémorer.
Donc Pedro Páramo, c'est un texte d'un auteur mexicain qui s'appelle Juan Rulfo. Et donc, on a voulu faire un petit peu connaître aussi cet auteur. Donc, il y aura une conférence donc pour commencer le samedi 18 janvier à 16h à la médiathèque départementale donc d'Iwa Vercors, qui est partenaire aussi avec nous sur ce spectacle, puisqu'il y a deux événements en amont. Donc, le samedi à 16h, le 18, donc le Mexique de Juan Rulfo. C'est un auteur qui a très peu écrit, mais ça, bon, Karim Ben Miloud, qui est le conférencier, vous expliquera un peu mieux que moi le parcours et l'œuvre de cet auteur.
Quel a été son rôle, Karim Ben Miloud ?
Alors lui, il est conférencier, donc il est professeur à l'université de Montpellier.
Et il a étudié l'œuvre.
Et là, il a étudié l'œuvre et c'est un spécialiste de la littérature mexicaine plus largement. Donc il viendra nous parler du Mexique de Juan Rulfo. Voilà.
Très bien.
Donc ça, c'est la première action autour de ce spectacle. Il y en aura une deuxième le mardi 21. Le mardi 21 janvier, donc, la compagnie revient pour quelques jours pour s'installer et répéter à nouveau. À 16h au théâtre, il y aura une répétition ouverte au public. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde, c'est entrée libre. Tout le monde peut venir assister à un temps de travail. Et dans la foulée à 18h, là toujours à la médiathèque d'Iwa Vercors, il y aura une lecture de textes de Juan Rulfo, voilà, par la compagnie également, par l'équipe artistique, les comédiens. Ah. Pour faire entendre aussi le texte et l'univers de Juan Rulfo, hors de Pedro Páramo, puisqu'il a aussi écrit des nouvelles, même s'il a une œuvre très courte. Voilà, pour donner à entendre un petit peu le texte et puis avec cette rencontre en amont. On fait aussi tout un travail d'atelier avec le milieu scolaire. Donc, on travaille avec une classe de seconde, justement sur le corps et l'imaginaire. Donc là, sur une dizaine d'heures, donc avec Sarkis et puis d'autres comédiens de la compagnie. Et puis pour prolonger ce temps, donc avec Sarkis, il y a vraiment un week-end de travail, donc le 25 et le 26 janvier sur deux jours, toujours sur le corps et l'imaginaire, donc là plutôt pour adultes à partir de 15 ans, pour ados aussi.
Faut s'inscrire,
c'est bientôt plein, il reste que 2-3 places. Mmh. Voilà.
Alors ça, on rappelle bien. Des fois.
Donc c'est le 25 et le 26 janvier, donc sur deux jours, le corps et l'imaginaire.
Et on appelle le théâtre.
Évidemment. Voilà, pour tout d'ailleurs.
À chaque fois.
À chaque fois.
Est-ce que, avant qu'on aille un peu plus loin, tu peux nous rappeler ce que ce texte dévoile ?
C'est un texte un peu emblématique de la littérature mexicaine aujourd'hui, la littérature contemporaine. Il a été méconnu pendant un moment, puisqu'il a très peu écrit, Juan Rulfo. Il parle du monde rural, vraiment, et puis de ces histoires de fantômes. De toujours un petit peu, voilà, le vent est très présent, le désert, c'est vraiment une ambiance mexicaine, on va dire, qui s'ancre dans la ruralité et dans le quotidien d'une certaine époque. Voilà.
Et que s'y passe-t-il ?
Et bien là, vous le découvrirez. Vous le découvrirez.
Bon.
Voilà, il y a de la vidéo. En tous les cas, dans ce spectacle, il y a un mélange. Il y a de très belles lumières. La lumière est très présente. Elle fait partie aussi de la scénographie. Il y a de très beaux costumes. Il y a de la vidéo aussi, qui est très, très présente et qui fait aussi partie de l'ambiance.
Qui vient nous présenter des décors, notamment, peut-être.
Pas forcément. Qui rajoute plutôt au niveau des scènes et du jeu, plutôt. Qui rajoute des images, on va dire. Et puis le son est primordial aussi dans ce spectacle. Je suis allée à Vénissieux, là, qui est aussi coproducteur, puisqu'on est deux coproducteurs sur cette création, puisque c'est une création, donc qui sera jouée le 17 janvier à Vénissieux et le 23 janvier au Théâtre de Die. Et donc je suis allée voir quelques répètes, et c'est vrai que c'est impressionnant, là, justement, la technique arrivée, donc quelque chose qui se met en place d'un seul coup, en plus du jeu de plateau des comédiens.
Tu parlais du son, c'est les comédiens qui jouent de la musique ou...
Non, là, il y a plusieurs personnes qui travaillent sur le son, avec des recherches plus sonores sur des ambiances, donc des coqs, des galops de chevaux, enfin, voilà, le vent, enfin, il y a vraiment une recherche plutôt d'ambiance, et puis de musique aussi, bien sûr, plus western, mexicaine, voilà.
Ouais, je voudrais presque dire, tiens, c'est les clichés qu'on attend.
Et ben, du les clichés seront là, mais avec une petite, des petites pirouettes. Il y a beaucoup d'humour aussi. Même si ça parle de fantômes, Sarkis a tenu à ce qu'il y ait aussi beaucoup d'humour et de recul, puisqu'on ne sait jamais si les gens qui sont sur le plateau incarnent des morts ou des vivants. Donc c'est ça aussi qui est assez troublant. Mais c'est pas un spectacle qui fait peur. Hein. C'est pas des, voilà, il y a pas de fantômes cachés dans le placard. C'est pas du tout ça. C'est plutôt des histoires, une histoire d'une saga familiale. Voilà, d'un homme qui était assez autoritaire et qui avait beaucoup de femmes, qui avait beaucoup d'enfants. C'est un peu cette histoire-là. Voilà.
Donc c'est un spectacle tout public. Hein.
C'est un spectacle tout public à partir de 15 ans.
Ah, quand même. Pourquoi?
Parce que de la thématique et puis le texte.
Quand pour la complexité.
Voilà, il y a un texte quand même qui est pas ardu, mais il faut rentrer dedans. C'est une certaine...
Isabelle, on reprend maintenant sur l'action culturelle liée. Je crois que tu nous as fait l'éventail des dates.
J'ai fait un petit peu le tour, oui, effectivement, de toutes les actions, hein, je pense.
Ces ateliers, est-ce que tu peux nous les décrire un petit peu ou comment ça s'est passé avec, la classe de seconde, notamment?
Eh ben, très bien, en plus une classe assez ouverte, la classe de Fabien Simoncelli, en plus avec des jeunes qui sont bien motivés, que pour certains font du théâtre aussi. Donc ils se sont prêtés vraiment au jeu, surtout que là c'est vraiment c'est pas un travail d'écriture, c'est pas un travail de théâtre pur, ils ont vraiment travaillé sur le corps et ce qu'amène le corps dans l'imaginaire. Donc,
alors qu'est-ce qu'ils font, par exemple, concrètement?
C'est difficile de te décrire les mouvements ou les exercices. En plus, moi, je n'ai pas assisté à tout. Mais par contre, moi, je conseille à ceux qui sont intéressés de venir au stage, justement, de 2 jours. C'est vraiment ouvert à tous. On n'a pas besoin d'avoir fait du théâtre, forcément, pour, en tous les cas, faire ce stage avec Sarkis.
Et pour allécher les gens, qu'est-ce qu'ils vont y faire?
Un travail corporel, essentiellement, à travers l'imaginaire.
C'est-à-dire que Sarkis va leur faire faire des figures, des positions.
C'est plutôt des exercices. C'est plutôt des exercices aussi à plusieurs ou avec des contraintes. Honnêtement, je pourrais difficilement en parler puisque moi, je l'ai jamais vu vraiment travailler. Voilà.
Bon, alors surprise totale.
Ouais, mais le corps et l'imaginaire. Bon. Déjà, c'est presque plein, donc je pense que les gens s'emparent de ça assez facilement. Là, c'est un peu comme les stages buto qu'on a fait déjà deux épisodes. Le public est vraiment curieux ici dans le DIY, je trouve, de tout ce qui est lié au corps et de son expression multiple et variée. Et je pense que là, ce stage théâtre entre guillemets corps et imaginaire fait un peu partie de cette dynamique-là.
Qui est le public qui s'inscrit?
C'est un public au niveau de la tranche d'âge, tu veux savoir, ou du style? Parce que là,
tranche d'âge,
j'ai beaucoup de mal, excuse-moi.
Effectivement, mais... tranche d'âge, pourquoi pas? Et puis surtout, est-ce que c'est des gens...
entre 30 et 60 ans, même 65, 70 ans. Voilà. Et surtout des femmes. Ce serait bien qu'il y ait des hommes. Il y a beaucoup de femmes qui s'inscrivent à ces stages. Ouais.
Et alors là, essayons de le décrire un peu, sans dévoiler quel est ce public, mais enfin, est-ce que c'est des professionnels qui viennent chercher une...
Pas du tout. Non. C'est des gens qui ont de la pratique, pour certaines. Je dis pour certaines, puisque c'est surtout des femmes. Bon, puis ça change un peu. Hein, ouais. On va dire que le féminin remporte sur le masculin.
Cette fois.
Non, il y a pas mal de gens qui ont des pratiques hein, de danse ou de théâtre également. Mais y a, voilà, sur ce stage-là, il n'y a pas forcément besoin, en tous les cas.
C'est pour savoir un petit peu si justement, c'était plutôt des gens qui étaient en recherche, qui se perfectionnent ou qui sont...
Des gens en recherche,
ou alors
mais
des
amateurs
gens complètement
qui sont curieux.
Curieux.
Mais c'est des gens curieux. Mmh. Amateurs curieux.
Et puis la deuxième question, concernant ces classes, encore une fois, comment ça se choisit? Est-ce que c'est Fabien Simoncelli qu'on sait assez dynamique pour élargir son projet pédagogique? Ou est-ce que c'est vraiment vous qui venez chercher, faire des propositions? Comment ça s'accroche, ça? Ça leur est imposé, d'ailleurs, aux élèves.
ça leur, les élèves, on leur impose tout, ça tu sais bien.
Bah oui. Donc,
même les ateliers de théâtre.
Ouais, même les trucs sympas.
Même les trucs sympas, on leur impose. Et ils sont plutôt ravis, hein. Ça bon. Se passe plutôt bien, heureusement.
Ça va quand on leur impose ça, quoi.
Oui. Bon, le reste aussi. En tous les cas, pour cette classe, je crois qu'il n'y a pas de, il y a pas vraiment de souci. Non, c'est quand même plusieurs années maintenant qu'on travaille au sein du festival Est-Ouest tout d'abord, et ensuite le Théâtre de Die avec l'éducation nationale de manière large, hein, de la maternelle jusqu'au BTS. Donc c'est... Et donc, chaque année au printemps, on se réunit avec les plusieurs profs intéressés, toujours. Hein, c'est toujours à peu près les mêmes, hein, évidemment.
C'est eux qui sont moteurs, d'ailleurs, de
c'est
ça.
C'est eux qui sont moteurs, bien sûr.
Ils ne sont pas chargés par contrat, justement.
Non, ils ne sont pas chargés par contrat, mais ils sont moteurs. Et ils trouvent, comme nous, assez évident et logique qu'un théâtre qui est en face d'une cité scolaire, voilà, il y a des échanges et qu'on fasse des choses ensemble. Il y a juste la rue à traverser et puis on est là. Il n'y a pas de transport hein, à payer, donc même si c'est bien qu'ils aillent voir des choses aussi à l'extérieur, évidemment. Mais en tous les cas, je pense que ces profs-là ont conscience de l'importance de ce lien-là. Donc au printemps, on se réunit. Moi, j'ai déjà des idées en tête, bien entendu, et des choses que j'ai envie de leur faire partager sur des spectacles que j'ai vus, sur des thématiques voilà, que je leur propose. La plupart du temps, ils sont plutôt réceptifs et... Voilà, ils acceptent, en tous les cas, plutôt les idées que moi, je leur propose. Ils ont tellement
d'autres choses. Ils ne font même pas leur petit marché, quoi. C'est, hop, c'est du tout cuit dans le bec.
C'est du tout cuit dans le bec. Après, c'est à eux aussi de s'emparer de cette matière-là et de travailler en amont et de motiver aussi leurs élèves. Et c'est pour la plupart ce qu'ils font très bien.
Et donc, toi, ton travail, c'est de voir si tel spectacle peut avoir des ramifications possibles.
Oui, un écho déjà dans ce qu'ils peuvent travailler en classe, déjà aussi, hein, l'aspect pédagogique, évidemment, et surtout quand c'est un texte littéraire, comment ça peut rebondir aussi, eux, dans leur programme. Et puis après, dans les pratiques, ça c'est encore autre chose, de voir ce qui peut aussi intéresser. Et c'est vrai que moi je suis assez étonnée, parce que là, tu vois, c'est un travail sur le corps et l'imaginaire, c'est pas un travail d'écriture, c'est pas un travail de fond, on va dire, de pure matière littéraire. Et les profs sont très ouverts aussi également à ça. L'année dernière, on avait fait un gros travail autour de la poésie, mais au-delà de la poésie, aussi de la mise en voix. Donc, comment on se met sur scène et comment on dit un texte. Donc, c'est assez complet. Ça leur permet aussi peut-être d'être plus à l'aise aussi à l'oral ensuite. Enfin, voilà, je pense que les profs, surtout pour les secondes, premières, le prennent aussi comme ça. Voilà.
Et j'imagine que pour les compagnies dans lesquelles tu sens qu'il y a des ponts possibles, c'est pas forcément évident pour eux de devenir des formateurs de ce genre de choses. Ou est-ce que c'est systématique ?
Alors c'est pas systématique, il y a des compagnies qui ne font pas du tout d'action culturelle. Après, quand même, la plupart et celles avec qui on travaille ont cette envie-là de transmission.
Alors est-ce que du coup ça oriente le choix de la programmation du Théâtre de Die finalement ?
Ça peut avoir un impact, mais Pas forcément. Il y a des spectacles qu'on accueille comme ça. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'action. Et on ne fait pas des actions systématiquement sur tous les spectacles qu'on accueille.
Mais est-ce que vous accueillez plus de spectacles qui permettent des actions ?
Je pense quand même, oui, effectivement. Oui, parce que c'est l'intérêt, c'est la rencontre, avant tout. Je veux dire, c'est qu'il y ait de la transmission, des liens autres simplement que spectateurs et puis les comédiens sur un plateau et puis chacun rentre chez soi.
La consommation.
Voilà, au moins là, il y a un lien, il y a des choses qui se passent entre eux. Ça démystifie aussi un théâtre, même si on est à dit, voilà, passer la porte d'un théâtre, c'est pas évident. Donc je pense que par la pratique et puis le fait de rencontrer des artistes en amont, d'avoir des liens simples, ça permet de passer la porte beaucoup plus facilement aussi.
Je te permets, Isabelle, maintenant de nous rappeler une dernière fois toutes les dates.
Alors.
Et puis on se quittera donc avec cette interview que Louis avait réalisée.
Oui, avec Sarkis Tchomlegjan. Je t'aide.
Merci.
De rien.
J'allais dire Sarkis, mais alors le nom de famille, là.
Donc le 18 janvier à 16h, donc il y a la conférence autour du Mexique de Juan Rulfo à la médiathèque. De Die. Le 21 à 16h au théâtre, une répétition ouverte au public, donc avec toute l'équipe artistique de Pedro Páramo. À 18h, vous aurez des lectures de textes de l'œuvre de Juan Rulfo aussi avec la compagnie Premier Acte. Donc le spectacle, évidemment, le 23 janvier à ne pas louper à 20h au théâtre de Die. Et le stage théâtre, donc le corps et l'imaginaire avec Sarkis Tchomlegjan, les 25 et 26 janvier. Et il ne reste pas beaucoup de place pour ce stage, voilà. Eh bien, j'en ai terminé.
Je vais évidemment placer toutes ces petites dates sur le site internet www.rdwa.fr où vous pouvez réécouter et télécharger cette émission. Et puis, bien sûr, vous allez sur les différents sites internet, théâtre2d.com, et puis retrouver tout ça sur le programme de le tout frais. Hein.
Oui, et il va donc de janvier à juin 2014.
Merci Isabelle, qu'à toi.
Merci Baptiste.
À bientôt.
À bientôt.
Interview. Okay, the bird. Interview.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et sur www.rdwa.fr. Aujourd'hui au Théâtre de Die avec Sarkis, metteur en scène, qui se prête aux questions sur notre antenne. Bonjour.
Bonjour. Le spectacle qu'on prépare est un spectacle qui est extrait ou tiré d'un roman mexicain, qui s'intitule Pedro Páramo, de Juan Rulfo, qui est une sorte de western paysan. À l'issue duquel un fils part à la recherche de son père. Et le roman traite un petit peu de ces rencontres assez insolites qu'il fait pendant son chemin jusqu'à rencontrer, ou pas, son père, qui est ce fameux Pedro Páramo. Alors, ce roman fait partie de ce genre littéraire qu'on appelle en littérature sud-américaine le réalisme merveilleux. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent peut-être Gabriel Garcia Marquez, qui est peut-être plus connu avec ses 100 ans de solitude, son prix Nobel, c'est ce genre d'écrivains, ce genre de rêveurs qui font se mêler le rêve, justement, et la réalité, des fois la plus sordide, la plus brutale, celle qui nous effraie, celle qui nous fait froid dans le dos. Et c'est ce mélange-là qui fait que ce western paysan, je prononce le mot à dessein, suscite à la fois la crainte et, j'espère, le rire, puisque nous militons toujours pour un théâtre joyeux, quel que soit le genre que nous abordons.
C'est un roman contemporain, parce que
c'est un roman.
La réalité mexicaine n'est pas toujours très rose.
La réalité mexicaine n'est pas très rose, que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans le passé. À partir du moment où, on va dire, les Espagnols sont arrivés, quand se sont installés comme tous les colons sur cette terre, qu'ils ont violé cette terre magnifique pour y installer, pour s'y installer, pour s'y intégrer. Et depuis, effectivement, ce moment jusqu'à aujourd'hui, l'actualité nous le rappelle, la réalité est très brutale. Donc aujourd'hui, bon, je crois que ça se tourne autour des cartels de la drogue, des trafiquants, de tout genre de délinquance. Mais les structures sont les mêmes, sont tribales, sont issues des tribus Inca, Aztèques. Il y a un cacique, il y a ces hommes de main, il y a la terreur qui est mêlée là. Pedro Páramo, on s'apercevra qu'effectivement, il est un de ceux-là, un de ces bandits, et que le fils, allant à la recherche de son père, va s'apercevoir que son père est un véritable assassin.
Et vous n'avez pas répondu à ma question, c'est un roman contemporain ?
Un roman contemporain. Il a été écrit par Juan Rulfo, qui a écrit qu'un seul livre, celui-ci, en 1958. C'est un seul livre qui a fait dire à ses pairs, à tous les gens de la littérature, on l'a tout de suite comparé à Kafka, pour ceux qui connaissent Faulkner, ou des grandes qui ont bouleversé ou qui ont signifié quelque chose de nouveau dans la littérature. Et Juan Rulfo fait partie de cela avec un seul livre.
Ça doit avoir du souffle, alors, quand on parle Faulkner, c'est épique même.
Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Je veux dire, moi, ce qui m'a attiré, c'est un peu la spécificité de notre compagnie, c'est-à-dire qu'on n'en est pas à notre premier essai d'adaptation de roman. On a fait Don Quichotte, on a fait, pour ceux qui connaissent des textes justement de Gabriel Garcia Marquez, la partie romanesque de Jean Genet. Et quand je suis tombé sur ce roman, il m'a brûlé les doigts. Et tous ceux qui le lisent le disent d'une manière très simple, sont bouleversés. Bouleversés parce que d'abord l'auteur y va, fournit de quoi nous bouleverser, mais au niveau même de la structure du roman, peut-être ce rapport à Faulkner. Et puis, magnifique, parce qu'une poésie extrême. Et on a la chance qu'une dernière traduction soit arrivée pour nous amener aussi un beau souffle, effectivement.
Ouais. Vous partez d'un roman. Oui. Vous en faites une pièce de théâtre. C'est facile ? Comment fait-on pour réécrire ?
ces 4 années, en tout cas pour ce qui concerne cette adaptation, ces 4 années de lecture, de relecture, de questionnement, de rencontre. Et c'est vrai que c'est interroge tous les outils du théâtre. C'est-à-dire que c'est pas une pièce. C'est autant, si on veut faire vraiment un théâtre dit classique, autant aller dans le répertoire, autant aller chercher Tchekhov, Shakespeare, Molière, et bien d'autres. Mais là, ça nous donne la possibilité d'utiliser tous les outils, j'appelle ça les médias ou les médiums qui peuvent relier le spectateur à une scène, à savoir l'utilisation d'une caméra, l'utilisation du son d'une manière différente, l'utilisation du vent, comment on peut raconter le vent dans ce roman. Bon, je ne sais pas si je suis bien clair en le racontant, parce que nous-mêmes, on est en train de chercher, mais effectivement, ça interroge toutes les parties du théâtre, et du coup, l'adaptation est un objet. Je le disais, je suis plutôt quelqu'un d'assez simple vis-à-vis de mon travail, mais je disais dernièrement à un directeur de théâtre qui me posait la question, ce n'est pas simplement une mise en scène que nous essayons de fournir, nous essayons ensemble de restituer une œuvre d'art. C'est-à-dire avec tout ce que ça comporte de nuances, de complexité, en tout cas en termes d'outils, pour pouvoir rendre ce beau roman simple, efficace, drôle et j'espère émouvant.
Mais alors concrètement, comment vous faites ? Vous lisez, donc vous relisez très 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 précautionneusement et vous en tirez des passages, vous réécrivez. Comment ça se passe pour transférer un roman en pièce de théâtre ? Comment on fait ?
Je relis, je lis et je relis. J'observe, je sélectionne des phrases, je ferai ce qu'on peut dire, c'est que je mets tout à plat. C'est-à-dire que je l'avais fait déjà sur les adaptations précédentes, je mets tous les textes à plat en éliminant ce qui est de narration, ce qui est de dialogue, ce qui est même de personnage. Je mets le texte à plat. Et là, je fais ma cuisine, c'est-à-dire je me dis « Ah, ce mot, cette expression-là peut passer directement dans la phrase, dans la bouche d'un personnage que je vais inventer, qui sera peut-être une sorte de cow-boy ou de vieux mexicain, et que cette partie-là, il peut, si je change le temps, si je le mets au présent, si je... Voilà, vous voyez, c'est vraiment ce travail. » Et puis, ce personnage, je ne vais pas le prendre. Il y a 20, 30, 40 personnages. Donc, je vais prêter ce qu'il dit à un autre personnage qui est complètement... Parce que je le connais au bout de 4 ans, je le tutoie, je le fréquente. Vous voyez à peu près le rapport que j'instaure finalement vis-à-vis d'une histoire. Et puis, petit à petit, je passe par des lectures. J'entends, parce que ce qui est écrit est une chose, mais vouloir l'écrire, vouloir le dire en est une, et vouloir se faire entendre en est une autre. Donc, je passe beaucoup, j'ai des acteurs pour ça, qui sont extrêmement dévoués pour ça, et qui vont me lire et relire pendant des années, jusqu'à ce que je sois saisi par cette histoire, dialoguée, narrée. Et voilà, quoi. Alors après, effectivement, c'est difficile en 5 minutes de faire la synthèse, mais c'est un travail aussi de réécriture, forcément, au bout d'un moment. Bon, la chance que j'ai avec Rulfo, c'est qu'il n'a pas écrit que ce roman. Il a écrit aussi des scénarios de cinéma qui ont été, d'où l'aspect cinématographique de ce qu'on essaye de faire, que j'ai pu me procurer, des scénarios de cinéma qui m'ont permis aussi d'extraire des phrases plus lapidaires, des phrases plus d'aujourd'hui encore. De temps en temps, on a vraiment l'impression d'être dans L'été une fois dans l'Ouest, avec les scénarios de Sergio Leone, avec une ironie acide. Voilà, donc, à un moment, je suis allé lire aussi chez Carlos Fuentes, je suis allé voir tous ceux qui sont dans la lignée de Juan Rulfo, tous ceux qui l'ont inspiré. Et forcément, sur la scène, il y a des images qui sont tirées, au-delà du texte, par tout cet univers que constituent tous ces écrivains sud-américains.
Et est-ce que vous êtes content de votre travail phénoménal ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été fidèle à l'esprit, à la lettre de ce roman ? Est-ce que quelqu'un qui vous verrait ne serait pas dépaysé par rapport au roman initial, quoi ?
Je ne le sais pas encore. Je suis content de le faire. Je peux pas je suis content de m'être attelé à cette tâche. Je suis content de pouvoir, avec mon respect pour l'écriture... Ce respect total pour l'écrivain Juan Rulfo, j'ai vraiment envie de faire cette passerelle et de faire ce qui est couché sur du papier, le rendre en 3D, on va dire, sur un plateau. Maintenant, je serai content le jour où le spectateur sortira et en aura plein les oreilles, plein voilà. C'est difficile. Aujourd'hui, on est au troisième, quatrième jour de répétition. On a encore six semaines, sept semaines. Je ne compte même pas les semaines. Mais je suis content. Et nous sommes contents d'être à Die. Nous sommes contents de faire ce travail ici, dans ce théâtre, avec les personnes qui nous y accueillent, avec la chaleur humaine, qui est toujours un appui qui nous permet de bien commencer, de bien entamer le chemin.
Néanmoins, vous m'avez dit que des 40 personnages qu'il y avait dans ce roman, vous l'avez condensé en 8. Donc ce sont les 8 personnages de votre compagnie.
Ouais, plus précisément 7.
7 plus 1.
Voilà, 7 plus 1. Voilà, ouais, c'est ça.
Et donc, vos comédiens, qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, de ce texte? Ils se sont appropriés facilement?
Ils sont en train de se l'approprier, ils sont en train de l'aimer, ils sont en train de se faire aimer par lui. Je veux dire, c'est une vraie rencontre. Je crois que c'est que 3-4 premiers jours. Bon, on avait fait des lectures déjà ensemble, donc on avait constitué une petite équipe. Et aujourd'hui, on a chacun ce plaisir de pouvoir le défendre. Non, je crois que l'ensemble de l'équipe, que ce soit les comédiens, que ce soit les sonorisateurs, que ce soit les vidéastes, que ce soit les costumiers, les décorateurs, sont saisis par cet objet dont on se dit tous à l'intérieur, je le sais, je suis un petit peu au carrefour de toutes les interrogations, de toutes les envies, dont on se dit effectivement qu'il pourrait être un objet magnifique. Et c'est ce qui fait courir un artiste.
Alors, avant de passer à la présentation de votre compagnie, on préfère une dernière petite question sur ce texte, à savoir, quels seraient les thèmes abordés, outre le fait qu'un fils cherche son père et que c'est dans un milieu mafieux, quels sont les thèmes abordés dans cette pièce de théâtre?
Il y a quelque chose dont je n'ai rien dit encore, je n'en ai pas parlé, c'est que ce roman fait se croiser les vivants et les non-vivants.
C'est du théâtre de zombies.
C'est pas un théâtre de zombies parce que, au fond, c'est très étrange. C'est toute la marque de fabrique de cette littérature sud-américaine où finalement on parle à quelqu'un et puis finalement on s'aperçoit qu'il n'est plus, qu'il a été, mais qu'il est encore là, et puis que c'est pas gênant parce qu'il a beaucoup d'humour, parce qu'il est drôle. Il y a dans le chemin du fils vers son père effectivement des rencontres, j'ai dit des rencontres insolites, c'est-à-dire des rencontres de fantômes qui sont là, qui l'attendent, qui font des projets d'avenir, qui se tutoient. Donc il y a le thème aussi effectivement de cette énigme qui nous interroge, nous êtres vivants. C'est fait avec beaucoup de poésie, donc il n'y a rien de lourd et de pesant. Il y a aussi la quête de l'amour impossible, puisqu'on s'apercevra sans dévoiler, parce que bon, de toute façon le sujet n'est pas là, mais enfin il est le fil rouge qui va constituer le repère pour ce fils vers son père. C'est-à-dire que le Pedro Páramo en question, le cacique, le tyran en question, et lui-même un être complètement amoureux d'une fille qui est d'un autre monde, mais d'un autre monde sur cette terre qui a des visions, qui est un peu folle. On dirait aujourd'hui avec un raccourci qui est peut-être autiste, qui est une jeune fille. Alors ce type qui a tout ce qu'il veut, il y a un monde qu'il n'a pas pu rencontrer, c'est le monde de cette jeune fille. Et ce qui va lui faire faire les actes les plus terribles, qui va le rendre meurtrier. C'est un petit peu tous ces thèmes que Juan Rulfo, et puis aussi la condition de vie paysanne, mexicaine, de cette époque. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui sans trop dévoiler trop de choses.
Alors est-ce que vous pourriez nous parler un peu des 7 plus 1 personnages, voire des comédiens qui les incarnent, donc de votre compagnie? Qu'est-ce que la compagnie Premier Acte alors?
Alors la compagnie Premier Acte, c'est une compagnie qui aujourd'hui a plus de 20 ans d'existence, qui en est à une quarantaine de spectacles, qui a cette chance depuis ces 10 dernières années de tourner sur les 5 continents, qui se retrouve à aussi bien à Nouméa qu'au Québec, qu'à Tokyo, avec un théâtre en langue française, mais avec un geste qui inspire, en tout cas qui nous fait voyager. Donc ça, c'est voilà. Elle a une école aussi. On est extrêmement sensible à la pédagogie. Donc il y a des professeurs, il y a tout ça. Et plus précisément autour de Pedro Páramo, il y a une équipe et qui, pour cette pièce-là qu'on est en train de travailler, il y a un renouvellement dans l'équipe des comédiens. C'est-à-dire que de ces personnes avec qui je travaille habituellement, il y en a 2 simplement. Et les autres sont des invités, sont des gens que j'ai auditionnés. Alors, je vais les citer parce que c'est bien de dire que Didier Vidal, qui est lui le protagoniste, c'est le fils qui va à la recherche de son père. Il y a Étienne Braque qui lui est un vieux cow-boy, vieux paysan qui a été tué d'une balle dans la nuque. Alors ça fait peur comme ça, mais c'est un western. Et qui revient dire 2-3 petites bricoles à ce jeune visiteur qui vient lui donner des conseils. Il y a Susanna, qui est interprétée par une danseuse colombienne, qui s'appelle Jasmine Landonon, je le dis peut-être mal, qui est la jeune fille justement qui inspire autant d'amour, autant de questionnement de Pedro Páramo, alors qui est un personnage muet, qui danse. Voilà. Il y a Moana, qui nous vient de Tahiti et qui loge en France, qui est aussi danseuse et qui est une femme qui prétend avoir bien connu le père donc, du protagoniste, c'est-à-dire Pedro Páramo. Il y a aussi Déborah Lamy, qui est une femme qui a été un petit peu la gouvernante, qui a connu, qui a été la nourrice de Juan Preciado avant que son père ne l'abandonne et qui l'attend et qui lui réserve une drôle de surprise. Et le tout est encadré par un homme dont on ne sait pas trop qui il deviendra, je préfère ne pas le dire aujourd'hui, mais qui vient sur la scène et qui est un petit peu celui qui va gérer une sorte de caméra, comme je l'appelle l'homme à la caméra, qui serait un régisseur, qui serait peut-être le rôle du metteur en scène, et qui vient finalement, avec sa caméra, cadrer pour le spectateur des portraits, des gros plans, des zooms, des plans objectifs, des plans subjectifs, et qui va envoyer le vent, qui va être un petit peu, dans un premier temps, celui qui sera le battleur, l'organisateur, le deus ex machina de cette entreprise et de cette rêverie, j'espère, et qui, petit à petit, va peut-être avoir un rôle qui va s'étendre et devenir je ne sais quoi encore, c'est trop tôt pour le dire.
Alors vous avez parlé plusieurs fois de cinéma, un cinéma dans le théâtre, alors est-ce que vous pourriez être un peu plus clair là-dessus ?
Bien sûr, je crois que ce spectacle-là, j'en ai fait déjà 2-3, je suis bon, j'aime beaucoup le cinéma, ça se sent, j'ai un désir de cinéma, je pratique un vocabulaire, quand je répète, cinématographique, je parle volontiers de zoom, de travelling, même s'il n'y a pas de zoom, de travelling, je parle de voix off, je parle de tout un vocabulaire, et précisément avec ce spectacle, j'utilise la musique comme le cinéma l'utiliserait, j'utilise des bruitages, une grosse partition sonore, comme on l'entend plus au cinéma qu'au théâtre, il faut bien le reconnaître, un phrasé assez rapide. Bref, je suis entre le désir et la mémoire du cinéma que j'ai pu intégrer durant toute ma vie. Entre les frères Cohen, entre les Sergio Leone, les Coppola, en tout cas, tous ceux qui ont traité de ce type de...
Western spaghetti.
De Western spaghetti, oui, effectivement.
Et donc, vous utilisez des trucs de cinéma à l'intérieur de cette pièce de théâtre.
Oui.
Dans la façon d'organiser la scénographie, enfin, je ne suis pas très, très précis. Parce que...
Non, mais absolument, vous voyez juste, disons que bon, ça pourrait être un plateau de tournage. Et petit à petit, de montrer les outils au théâtre, puisque bon, moi je suis partisan de rappeler, un peu comme certains dramaturges, certains grands auteurs l'ont rappelé, que le spectateur n'est pas dupe. Il veut bien rêver, mais le vent, c'est pas le vent qui vient directement du Mexique. Il y a un ventilateur quelque part qui va figurer le vent. La gifle ou le coup de feu qu'on va envoyer, vous voyez, c'est toute une mémoire, un accord, une convention qu'on a avec le spectateur. Et moi, tant qu'à faire, montrons un ventilo qui tombe du plafond et qui vient faire le vent, une tempête, un vieux ventilo, et on oubliera vite le ventilo, et on acceptera d'autant plus le voyage qu'on lui propose. Donc c'est finalement montrer l'outil scénographique au spectateur et le faire partager notre chemin et de rêver ensemble à la fabrication de cette histoire. Pas simplement pourquoi cette histoire, mais comment cette histoire ?
Alors, si je corrobore, hein, vous m'avez dit qu'il y avait une partie onirique un peu fantastique, puisqu'il y a des morts qui ne sont pas tout à fait vivants, enfin, bref.
Ouais, c'est
donc, le fait que, je suppose, vous utilisiez des trucs comme ça, même visuels, ça s'intègre naturellement dans votre spectacle.
Complètement. Il y a des caméras à portée qui vont venir créer des portraits, des choses, complètement.
Alors, je vous chope aujourd'hui, nous sommes le 29 novembre. Vous m'avez dit que vous en étiez au début de l'appropriation par les comédiens de cette pièce de théâtre. Vous en êtes au début de la répétition. Ça vous excite ? Qu'est-ce qu'on sent au début d'une pièce de théâtre ?
Ah bah, le premier jour, un véritable vent de panique. Parce qu'on a lu à la table, on s'est fait du bien, on a murmuré le texte, on l'a aimé. Et puis d'un seul coup, il y a la réalité du plateau. Donc notre chance aujourd'hui, c'est tout de suite de mesurer l'impact d'une scène de théâtre. Donc un gros vent de panique la première fois, pas de panique, de frayeur, de choses, parce que la panique c'est déjà un autre stade, il n'y a pas le feu, on est à 2 mois, et puis il y a une excitation énorme, Là, on loge avec les collègues dans un gîte et le soir, on parle et un des acteurs me dit, voilà, je vais me coucher vers le petit vélo dans la tête qui va se mettre en route et je ne vais pas pouvoir dormir, je vais revoir toutes ces images. C'est fabuleux de se retrouver en train de préparer l'arrivée d'un spectacle. Et donc là, oui, bien sûr, il y a une excitation, il y a une impatience. Parfois, on a des images, on voudrait déjà qu'elles soient là et on sait que c'est dangereux de mettre trop vite. Donc, vous voyez, bon. Voilà, oui, bien sûr.
Vous allez être pendant 2 mois dans un petit microcosme un peu autarcique.
Complètement. Donc, complètement. C'est l'immersion totale. Et c'est des moments de haut, de bas, de choses complètement contradictoires, des grandes envolées, des grandes... Et puis d'un seul coup, de se dire, voilà, ça fait partie de ce travail qui est très douloureux aussi. Mais bon, quand ça se passe bien, c'est des grands, grands bonheurs, quoi.
Donc vous profitez de ce théâtre de Die pour mettre au point cette pièce. Je suppose que vous seriez bien content de la caser ailleurs. C'est prévu.
Bien sûr, c'est prévu. On le créera d'ailleurs à Vénissieux, au théâtre de Vénissieux dans la région lyonnaise. Et puis après, on a 3-4 dates dans la région Bourg. Je n'ai pas les dates là exactement. Enfin bon, dans la région Rhône-Alpes en tout cas. Et puis on compte bien, effectivement, une fois que le spectacle est créé, pouvoir le reprendre la saison prochaine et le tourner.
Alors justement, ça m'interpelle ce que vous me dites. Combien il faut de représentations pour un spectacle comme ça, pour le rentabiliser, ou en tout cas rentrer dans vos frais? Et quel est le modèle économique d'une pièce de théâtre? Je sais que c'est un peu épiphénoménal, c'est pas tout à fait dans le truc, mais ça m'intéresse.
Moi, ça m'intéresse aussi. Hein, on est complètement conditionné aussi par ces
contraintes.
Ces contraintes. Donc... Là, disons que on a fait un budget d'exploitation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait qu'avec l'argent public, avec les préachats, avec les coproductions, voilà, je ne sais pas si les auditeurs entendent bien ce que ça veut dire, enfin bon, des gens qui nous font confiance, en gros, il y a un investissement, et je pense que la chose se rétablira au bout de 10 représentations, ce qui est assez bien d'ailleurs. Pour vous donner une idée, on fait le Festival d'Avignon, c'est aussi notre façon de vendre, j'emploie les termes, commerciaux, parce que nous sommes conscients qu'à un moment donné, un spectacle ne peut pas non plus être qu'un fantasme. Il faut aussi qu'il soit une réalité, qu'il soit partageable. Quand on a le dernier spectacle qui a très bien marché pour nous, il a fallu 12 représentations pour amortir les frais qui ont été faits pour aller sur le Festival d'Avignon. Mais après, bon, c'est des marges qui reviennent. Mais c'est au moins une dizaine de représentations.
Et alors, c'est quoi la mise de fonds initiale, en fait?
Vous voulez dire le
budget? Disons que si vous me dites qu'au bout de 10 représentations, vous amortissez l'investissement initial, qu'est-ce qui entre dans les frais d'une pièce de théâtre? Je suppose que la plus grosse partie, c'est peut-être les salaires des comédiens, des éléments de décor, de déplacement, etc. Voilà. Mais justement, ça représente...
La somme, moi, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Sincèrement, je ne l'ai pas. J'ose même pas la prononcer tellement je sais pas ma partie. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est sincère. Ce que je peux dire, par contre, c'est qu'un spectacle comme celui-ci, il se vend environ entre 5 000 et 6 000 euros. Voilà, ça peut vous donner une idée. Donc, alors après, c'est par 10.
Voilà, et voilà, on peut dire que vous aviez une mise de fonds initiale de 60 000 euros.
Vous voyez, j'allais dire 56 000, vous n'êtes pas loin, 60 000 euros, ouais. Peut-être même un peu plus. Parce que nous, on a basé sur plutôt 15 représentations, vous voyez, parce que...
Vous aimeriez bien gagner de l'argent en plus.
On a une compagnie à faire vivre, effectivement. Il n'y a pas de tabou à ce qu'une compagnie puisse, à un moment donné, avoir ses fonds propres et pouvoir vivre d'elle-même. C'est un peu le cas de la compagnie, d'ailleurs, qui tourne beaucoup et qui, effectivement, fait des petites marges. Mais les temps sont toujours durs pour toutes les compagnies. Mais c'est vrai que, ouais, on a envie, c'est pas le but, mais c'est envie de pouvoir réinvestir dans un autre spectacle. Parce que ce choix de spectacle, vous vous imaginez bien que moi, en venant parler aujourd'hui de Pedro Páramo, je suis très bien avec vous parce que je le sens super bien. Mais il est plus simple, parfois, de parler du Malade Imaginaire ou des Fourberies de Scapin. Parce que d'un seul coup, on a une connaissance commune et que l'un directeur de théâtre y est sensible. Il sait très bien qu'en programmant les Fourberies de Scapin, dans des théâtres dits classiques, il va remplir bien plus qu'un Pedro Páramo qui va nous parler de fantômes ou de western paysan ou spaghetti.
Eh bien, Sarkis Tchermledjian, j'espère que je n'ai pas trop écorché votre nom.
Ah, vous lui avez donné un charme particulier, celui de Die.
Et voilà, eh bien, je vous remercie d'avoir répondu à ces questions. On vous attend de pied ferme à Die le 23 janvier à 20h30 au Théâtre de Die. Pour tout ce qui est billetterie, adressez-vous comme d'habitude au Théâtre Est-Ouest. Et sur la page de RDIWA, vous trouverez des coordonnées téléphoniques pour vous renseigner. Je vous souhaite un bon spectacle. Hein.
Merci.
Et éventuellement, on se reverrait en janvier.
Avec plaisir.
Monsieur Tchermledjian, au revoir.
Au revoir.
Interview. du jour.